La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Aussi mal engagé soit-il, le débat autour des fake news et autres faits alternatifs aura eu le mérite d'encourager des formes de réflexivité trop rarement pratiquées dans l'univers journalistique. C'est en effet probablement en raison de ces inquiétudes nouvelles nées du risque perçu de l'installation d'un régime de post-vérité au cœur de l'espace public que se sont fait jour de salutaires initiatives autour de la vérification des faits, le journalisme de fact-checking aussi nécessaire qu'insuffisant, mais aussi de la manière de rendre compte des méthodes et des résultats scientifiques. C'est à la faveur donc de ce débat parfois un peu naïf sur les fake news qu'on a pu entendre par exemple des discours journalistiques plus clairs que jamais sur ce qu'un groupe de médecins a qualifié de fake Med, l'homéopathie, conduisant pour la première fois une ministre de la Santé à annoncer que cette pratique allait enfin être évaluée et donc probablement déremboursée. C'est ce contexte nouveau que j'aimerais aborder aujourd'hui à la suite dans les idées avec le sociologue Yves Gingras. Yves Gingras, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire et de sociologie des sciences à l'Université du Québec à Montréal. Alors, sociologie des sciences, c'était le titre d'un que sais-je que vous aviez autrefois publié. Et maintenant, histoire des sciences, c'est le titre d'un deuxième que sais-je. Comme ça, vos deux disciplines que vous enseignez à l'Université du Québec à Montréal sont désormais dans cette collection avec cette règle du jeu parfois un peu sévère, 128 pages, je crois, ce qui est peu pour s'attaquer à l'histoire des sciences. La question que je voudrais qu'on pose aujourd'hui, c'est comment faire l'histoire des sciences, ou plutôt comment vulgariser l'histoire des sciences, puisque c'est aussi le propos d'une collection comme que sais-je, en direction d'un grand public, dans un contexte qui change assez vite du fait d'évolution numérique, du fait des manières que nous avons désormais de nous informer. Les questions se posent peut-être différemment. En tout cas, les journalistes, et j'imagine aussi les chercheurs, se posent des questions sur la meilleure manière de s'adresser désormais au public. C'est tout cela dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui. On en parlera en deuxième partie de l'émission avec Nicolas Martin, qui est producteur sur France Culture, producteur de l'émission quotidienne La Méthode Scientifique, mais qui est aussi le producteur d'un podcast natif, comme on dit, c'est-à-dire un podcast préparé spécialement pour être diffusé par la voix du podcast, qui n'est pas diffusé à l'antenne, qui s'appelle Les Idées Claires, et que je rangerai parmi ces initiatives nouvelles que je saluais à l'instant dans l'introduction de cette émission. Mais commençons, Yves Gingras, si vous voulez bien, par cette question de l'histoire des sciences qui n'est pas nouvelle, mais ce qui est nouveau peut-être, c'est ce contexte. Et je voudrais savoir si vous vous êtes posé la question, parce que l'histoire concerne parfois des faits très éloignés, mais elle a toujours quelque chose à voir avec le présent dans lequel elle s'écrit.
Oui, je pense que vous avez parfaitement raison. Et lorsque j'ai préparé le que sais-je, et je suis très heureux que vous mentionniez le fait qu'un que sais-je est formaté à 128 pages, c'est-à-dire 200 000 signes, pas 250 000 signes, 200 000 signes. Donc, ça nous force à dire qu'est-ce qui est essentiel. Lorsqu'on se pose cette question, je l'avais fait de façon moins difficile pour le que sais-je de sociologie des sciences. Bon, la sociologie des sciences, c'est un certain nombre de conceptualisations du transformation de la science. Mais l'histoire des sciences, faut se dire qu'est-ce que c'est les sciences. Donc, j'ai fait le pari de définir les sciences dès la première page pour dire ici, je ne parle pas de façon vague comme un livre qui est paru en trois tomes, qui est très intéressant, qui est très culturaliste, qui s'appelle Histoire des sciences et des savoirs. Donc, je me dis, si on dit Histoire des sciences et des savoirs, c'est que les savoirs, c'est différent des sciences, parce que l'histoire de A et B, ça présuppose une distinction entre A et B. Donc, moi, j'ai dit non, c'est une histoire des sciences dont je parle. Donc, qu'est-ce que je définis comme science? Donc, la science, c'est, au fond, le mode d'interrogation de la nature sur tout ce qui est environnant, mais de façon naturaliste. Par exemple, si on dit « la pomme tombe et c'est un miracle », on ne fait pas la science. C'est peut-être vrai que c'est Dieu qui a fait tomber la pomme, mais c'est un autre registre. C'est même pas un savoir, c'est une croyance. Donc, on s'en tient au terme assez spécifique. On se dit, OK, quelle est la généalogie de nos connaissances, qui est synonyme d'ailleurs de savoir, dans mon cas, parce qu'en anglais, il y a un seul mot, hein, c'est knowledge. En français, on joue un peu sur la sémantique en disant un savoir, c'est pas une connaissance. Non. Si on sait que 2 et 2 font 4, c'est qu'on a la connaissance que 2 et 2 font 4. On n'a peut-être pas les axiomes de Peano, la démonstration mathématique pour dire quels sont les fondements de la théorie des ensembles à la Bourbaki, mais on sait que 2 et 2 font 4. On ne se trompe pas en disant ça. Donc, c'est vraiment des connaissances. Et qu'est-ce qu'il faut dire? C'est relié au présent parce que je me suis dit, revenons au grand mode de pensée, au grand cadre conceptuel. Par exemple, de l'Antiquité jusqu'au 17e siècle, donc pendant 2000 ans, le cadre conceptuel, c'est la théorie des quatre éléments. Lorsqu'on a tendance à ridiculiser, par exemple, l'idée qu'on peut faire de l'alchimie, que transformer du plomb en or, c'est ridicule. Pas du tout. Le cadre conceptuel, c'est que les éléments sont tous transformables les uns dans les autres de façon circulaire. Le chaud, le froid, l'humide et le sec se transforment comme l'air, le feu, la terre et les quatre éléments. Donc, on peut, en transformant la composition des qualités, le chaud, le froid, l'humide, le sec, transformer un élément en un autre. Ça, c'est vrai jusqu'au 17e siècle avec la vision mécaniste et même la démonstration finale que c'est pas des éléments, c'est Lavoisier, donc c'est très loin. Donc, selon les disciplines, les cadres conceptuels changent. Et donc, l'ordre mécanique du monde ne s'établit, au fond, qu'au 18e siècle. Et d'où, par exemple, j'ai une section, on a tendance à parler de révolution copernicienne. Je dis non, c'est la transition copernicienne. C'est une transition, parce que lui-même, c'est pas trop ce qu'il est en train de faire, mais il est en train de détruire le cadre conceptuel sans le remplacer. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, par exemple, vous prenez l'exemple de l'homéopathie, ma réponse à ça, c'est de dire, écoutez, en science, on a, depuis le 18e siècle, ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. Si on connaît le nombre d'Avogadro, c'est pas compliqué, hein, 6.023 10 à la 23, et que tout gaz ne contient que ce nombre d'atomes...
À la 23, je traduis, c'est 10 puissance 23 oui, en français.
En français, très bien. Donc, 10 puissance 23, on voit que l'homéopathie, après une dilution CH, les fameuses centésimales anémaniennes, après 12, il ne reste rien. C'est de l'arithmétique élémentaire. C'est ça que je veux dire. Donc, en histoire des sciences, c'est pareil. Tu dis, OK, pourquoi on insiste sur Aristote? Ben, c'est qu'Aristote était le fondement. Galilée parle encore d'Aristote. Et les gens parlent d'Aristote jusqu'à ce que Newton dit, c'est terminé, et Galilée aussi. Lorsqu'on a ces grands cadres-là, ça nous fait voir les cadres conceptuels. Et ce n'est qu'au 20e siècle qu'on va les transformer de façon radicale, avec bien sûr la fameuse mécanique quantique, qui donne lieu, elle aussi, à des abus mystiques. Parce qu'on pense qu'on connaît mal la mécanique quantique, il y a des mystiques, j'en ai traité en détail dans mon livre sur l'impossible dialogue entre science et religion. Donc, quelle approche ici du que sais-je? Regardez, voici les soubassements de l'histoire, tant sur le plan géographique, parce qu'on est passé du monde grec, on s'est déplacé vers Bagdad, les grandes villes arabes, pour remonter ensuite, pour des raisons économiques, politiques, guerrières, on est remonté vers le nord. Donc, une des originalités, c'est de montrer quatre cartes géographiques pour dire... La science aristotélicienne s'est faite dans les grandes villes, les villes de Grèce, les villes du monde arabe, et ensuite les villes européennes et les villes nordiques, la Suède à la fin du 19e, la Russie. Et toutes ces choses-là nous font comprendre dans quel monde on vit aujourd'hui. Par exemple, la multiplication des universités au Moyen-Âge, c'est, à mon avis, le soubassement qui rend possible ce qu'on appelle la révolution scientifique du 17e siècle, alors que jusque-là, on vit de mécénat. Et ça a des conséquences pour aujourd'hui, parce qu'on revient avec le désinvestissement de l'État à des formes de mécénat, ce qui donne lieu à des nouveaux gourous qui disent « Ah, moi, j'ai des milliards, je veux qu'on découvre des extraterrestres ». Et donc, ils mettent des millions, les Russes, Yuri et l'autre, qui, alors que jusqu'au fin du 20e siècle, c'est l'État de 1945 à 2000 qui était le soubassement de l'investissement. Donc, je me rends jusqu'à aujourd'hui pour montrer que l'État qui se fonde sur la science, c'est récent, et que dans l'Antiquité, ce sont des mécènes, que ce soit les rois de Ptolémée ou les princes de Bagdad, c'est eux qui décident de s'entourer de philosophes ou d'astronomes.
Il y a une dimension que vous avez oubliée dans ce vaste panorama, Yves Gingras, c'est que quand vous faites l'histoire des sciences, vous êtes aussi conduit à faire l'histoire de l'histoire des sciences. Parce que cette histoire des sciences ne s'est pas écrite ou réalisée de la même manière depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Elle a toujours existé.
Exactement. Ah non, je suis très content de vous souvenir, parce qu'une des originalités de ce livre-là, c'est qu'il commence par ce que j'appelle l'histoire, mais aussi les usages de l'histoire des sciences. Qui fait de l'histoire des sciences et pour quelle raison? Tout d'abord, bien sûr, comme on sait, tout le monde a Aristote, parce que ce qu'on connaît des présocratiques, c'est Aristote qui nous dit « Oui, avant moi, il y a eu lui, qui est bon, mais c'est pas très bon. » Donc, sa généalogie des présocratiques, c'est pour montrer que, oui, on a appris des choses, mais ça culmine dans Aristote lui-même. Et on trouve la même chose chez Tycho Brahe, qui dit, bon, au fond, avec son débat avec Ursus, on refait l'histoire. Et même chez Copernic, il dit, au fond, mon héliocentrisme, qui va peut-être faire peur, c'était connu d'Aristarque. Donc ça, c'est les usages un peu intellectuels, idéologiques. Mais au 19e siècle, il y a eu des usages nationaliste. Après la fusion, la construction de l'Allemagne après 1870, il y a une grande encyclopédie en plusieurs tomes, dont jeune politique, il y a une histoire de la physique, une histoire de la chimie, une histoire de la géologie. Toutes les disciplines y sont pour dire quoi? Regardez la puissance scientifique de l'Allemagne, ce qui explique d'ailleurs que Pasteur avait dit après la guerre franco-prusse, au fond, l'Allemagne a gagné la guerre grâce à ses laboratoires. Donc, elle a internalisé ça dans une histoire. Et je termine de façon pas ironique, mais je pense qu'il faut être réflexif jusqu'au bout. Lorsqu'on assiste depuis les années, disons, 70 et même surtout actuellement à la construction consciente d'une Europe unie, on a publié une histoire des sciences européennes. Or, ça n'existe pas. Et la preuve, c'est que tous les chapitres étaient histoire des sciences en Grèce, histoire des sciences en Russie, histoire des sciences en France. Donc, on a mis sous deux couverts l'histoire des sciences dans plusieurs pays, mais le titre était histoire des sciences européennes. Donc, l'histoire des sciences a très, très longtemps servi des raisons économiques, sociales, mais surtout intellectuelles. Au 18e, on dit, c'est l'histoire de la raison. L'histoire des guerres, c'est bien, mais oublier l'histoire de la science, c'est oublier l'histoire de l'esprit humain. Et c'est très important. Et dans les années 1960, les deux grandes encyclopédies d'histoire des sciences, celle de René Tatton en 4-5 tomes, commencent en disant « La fameuse guerre entre les deux cultures ne pourra être résolue que par l'histoire des sciences, parce que c'est elle qui est à la fois historique, donc littéraire, mais scientifique, parce qu'elle parle de science. » Donc les discours, les prolégomènes aux grandes œuvres d'histoire des sciences sont des discours culturalistes qui disent il faut cesser la guerre entre les sciences et la littérature, et c'est à travers l'histoire des sciences qu'il y a un intérêt humaniste. C'est explicite dans les textes, l'histoire des sciences sert un but humaniste. Donc oui, l'histoire des sciences a servi à de grands domaines jusqu'à ce qu'elle se professionnalise et qu'elle devienne une discipline très spécialisée avec des revues d'histoire des mathématiques.
Elle a connu la même évolution que toutes les sciences, c'est-à-dire une spécialisation de plus en plus grande, et on a vu apparaître des historiens qui s'intéressent aux sciences, mais des historiens des sciences à l'intérieur même de l'histoire qui ont repris l'objet aux scientifiques qui prétendaient eux-mêmes faire l'histoire de leur méthode et de leur pratique.
Oui, parce qu'au fond, effectivement, les scientifiques qui faisaient leur histoire, c'était pour montrer qu'il y avait des grands penseurs avec eux. Quand on dit « oui, il y a eu Newton », ça veut dire « moi, je suis physicien, mon ancêtre, c'est Newton, donc je suis quand même un peu Newton ». Donc, il y avait une mise à l'avant de chacune des disciplines à travers
les grandes figures.
Les grandes figures. Mais bien sûr, avec la spécialisation, ça devient un monde de plus en plus divisé. J'ai une section un peu ironique, je ne devrais pas le dire, qui s'appelle « Une histoire de tournant », où même à l'intérieur de l'histoire des sciences, on a le tournant intellectuel, dont les années 40 à 60, on fait l'histoire des idées. C'est quoi la géométrie de Newton? Quel type de théorie des fluxions qu'on appelle ensuite avec Leibniz calcul différentiel? C'est très technique. Si vous n'êtes pas un peu frotté de mathématiques, vous comprenez rien. Les années 60, on a eu un tournant social, histoire sociale. À quoi sert la science dans la société? Quelles sont les institutions scientifiques? Le rôle des États? Et ensuite, dans les années 80, on a eu le tournant culturaliste, histoire culturelle. Quels sont les usages sociaux de Newton? Comment le génie de Newton s'est construit chez les intellectuels du 18e? On dit « Ah, Newton est un grand génie. Qui a dit ça? » Quelle facette du génie on va développer? Ça, c'est l'histoire culturelle. Et il y a un retour un peu à de dire, oui, mais c'est bien l'histoire culturelle, mais il faudrait peut-être savoir quel est le contenu scientifique. Donc, le pari du que sais-je, c'est de dire, c'est très bien l'histoire culturelle. Mais avant de faire l'histoire culturelle des sciences, il faudrait peut-être savoir qui était Ptolémée, pourquoi Ptolémée a duré 2000 ans. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on utilise des mots comme algorithme. Bon, là, je leur dis, mais algorithme, ça veut dire algorithmus. C'est un terme d'un mathématicien arabe du 9e siècle, Al-Khwarizmi. Et que même si on prend non pas le mot, mais le concept, les premiers algorithmes, ce sont les Babyloniens qui solutionnaient de façon algorithmique des racines carrées ou des équations du deuxième degré. Donc, quand on remet le cadre général, ça nous fait mieux comprendre le monde actuel et on voit qu'il est moins nouveau, moins radicalement nouveau que ce qu'on pourrait croire. C'est pas ex nihilo que ça se fait, mais à travers des soubassements conceptuels qui sont d'ailleurs relativement stables depuis les années 70.
À propos de tournant, il y en a un important quand même, et j'imagine qu'il vous concerne au premier chef, puisque vous êtes historien, mais vous êtes aussi sociologue. C'est une forme de rapprochement entre la sociologie des sciences et l'histoire des sciences, avec une sorte de nouveau champ disciplinaire qui apparaît dans le monde anglo-saxon, mais aussi assez vite représenté en France, une nouvelle manière de s'attaquer à l'histoire des sciences d'un point de vue quand même très sociologique, Yves Gingras.
Oui, et ça, je pense que c'est très bien. Dans les années 70, ce qu'on appelait au fond la nouvelle sociologie des connaissances scientifiques, c'est dit, au lieu comme le faisait d'ailleurs, c'est une façon de se distinguer aussi l'histoire faite par les physiciens. Les physiciens vont dire, bon, J.J. Thomson découvre l'électron en 1897, bon, c'est bien, c'est un fait, l'électron, on sait c'est quoi. Les historiens, influencés par une problématique constructiviste, vont dire, mais qu'est-ce que c'était pour les gens de l'époque que de dire, oui, on a découvert l'électron. Donc, c'est une réflexion de sociologiser au maximum un peu ce qu'on avait tendance à appeler l'épistémologie, c'est dans quelles conditions les gens ont reconnu que Thomson avait bien découvert ce qu'on appelle un électron, par quelle expérience. Donc, paradoxalement, l'histoire, soi-disant sociologique, si vous la lisez, elle est beaucoup plus technique. Un des grands classiques, c'est Andrew Pickering, qui écrit un gros livre qui s'appelle « Constructing Quarks ». Ben, si vous n'êtes pas physicien, vous n'y comprendrez rien, parce que pour construire les quarks dans la communauté, c'est très technique. Il y a un appareil, ou même sur les ondes gravitationnelles, les grands travaux de Harry Collins sur la détection des ondes gravitationnelles, ça ne parle que de choses hyper techniques dans un langage de physicien. Il montre des controverses. Donc, les controverses scientifiques entre les physiciens, ça ne parle pas de politique scientifique, ça ne parle pas de subvention de l'État à l'IGO. Donc, le paradoxe, d'ailleurs, c'est ce que j'ai appelé le nouvel internalisme. C'est que la sociologie constructiviste s'évolue une vue externaliste, la société explique la science, mais au fond, j'ai montré que paradoxalement, si on les lit attentivement, ils ne parlent que de choses hyper techniques, donc c'est un nouvel internalisme, mais qui met l'accent sur les controverses, les désaccords, pour montrer que le consensus est souvent fragile. Ça nous permet, par exemple, d'écrire l'histoire de la tectonique des plaques pour comprendre que les gens qui s'opposaient à Wegener dans les années 1910 n'étaient pas stupides. Il y avait de très bons arguments. Wegener n'avait pas d'arguments dans le cadre conceptuel de l'époque qui ne pourra être révolutionné que dans les années 1960 grâce au fait que pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a développé des sous-marins d'autres. On peut aller à des pressions élevées sous la mer et voir finalement les failles et avoir un nouveau cadre conceptuel et se dire, oui, les plaques peuvent bouger parce qu'elles ne sont pas sur la roche, elles sont au fond sur un magma liquide. Et ça, c'est les travaux grâce à l'influence de la sociologie qui dit quelles sont les interactions entre les scientifiques, comment ils en arrivent à un consensus. Et donc, c'est toujours à la fin sur les méthodes. Ils disent, mais t'as pas vraiment montré telle chose parce que t'as pas vraiment mesuré telle chose. Donc, bien que ça a donné lieu à un extrémisme relativiste qui donnait l'impression que tout est une construction sociale, la majorité des bons travaux sont au contraire fondés sur une connaissance technique de la physique du temps pour montrer que le consensus s'est construit en refaisant des expériences pour montrer vraiment que les choses sont telles qu'elles le sont. Donc les faits, une fois construits, restent stables.
On est loin des accusations caricaturales de relativisme qu'on peut lire ici ou là, parfois s'agissant de ces travaux, enfin en tous les cas de ceux des plus sérieux de ces travaux dont vous parlez. Alors toutefois, cette évolution, d'une part la spécialisation des connaissances scientifiques et d'autre part la nécessité de la prise en compte des controverses, pose des problèmes inédits à ceux qui entendent vulgariser les sciences, à ceux qui entendent partager les résultats des sciences, à commencer peut-être d'ailleurs par les enseignants à l'école, qui doivent expliquer à des élèves qui sont loin d'être des spécialistes et qui ne peuvent pas bien évidemment maîtriser la technicité dont vous parliez de tel ou tel des sujets. Ça pose vraiment la question de comment raconter ces résultats scientifiques, quelle part on doit accorder à l'histoire des sciences de façon à ne pas rendre les résultats scientifiques magique, puisque le risque est peut-être là, Yves Gingras.
Oui, et ça, c'est un problème très grave parce qu'on est entre deux écueils. Le premier, qui est classique dans l'enseignement des sciences depuis toujours, et moi, je me souviens, quand j'étais jeune, je suivais des cours de sciences de façon réflexive. Aujourd'hui, je me dis, on dit, voici les choses. Puis on dit, mais c'est un génie qui a découvert ça. Comme moi, je suis un con parce que jamais je découvrirai l'atome de Bohr. Et je prends cet exemple-là parce qu'il m'avait frappé. Ensuite, j'ai lu sur l'histoire de l'atome de Bohr. Lorsqu'on lit l'histoire de l'atome de Bohr, on s'aperçoit qu'au fond, il y a une généalogie qui rend compréhensible qu'un homme, qui n'est pas un génie extraterrestre, a fait un modèle qu'on appelle l'atome de Bohr. Donc, d'un côté, il faut historiciser tous les concepts, parce que c'est la seule façon de les comprendre. Je vais prendre un exemple bref. On parle en théorie d'Einstein, en relativité, de ce qu'on appelle la contraction de Lorentz. Là, tout le monde se dit, la contraction de Lorentz, il y en a qui croient que les règles raccourcissent. Donc là, il y a des physiciens qui se disent, il y a eu des travaux là-dessus qui sont absurdes, mais qui disent, mais si les règles raccourcissent, c'est qu'il y a une force, parce que bien sûr, pour raccourcir un objet, il faut exercer une force. Or, pour comprendre que c'est une erreur conceptuelle, c'est que le mot contraction Lorentz vient avant Einstein. À l'époque, on croyait à un éther absolu. Or, s'il y a un éther absolu, il faut des forces, parce qu'il y a une longueur absolue. Et là, donc, il y avait le champ magnétique électrique différent, plus fort. Avec Einstein, il n'y a plus d'éther. Donc, il y a des différences de longueur. Les longueurs sont différentes, une est plus courte que l'autre, mais elle ne s'est pas raccourcie. C'est plus difficile à comprendre, mais lorsqu'on rappelle l'historicité du concept, on comprend que c'est compréhensible. L'autre écueil, c'est que lorsqu'on fait l'historicité des concepts, on tombe dans les controverses. Et là, si on a une vision relativiste radicale, on va dire, bon, vous voyez, c'est arbitraire, c'est Einstein qui a gagné parce qu'il était en Allemagne, etc., et dans un pays dominant sur le plan économique, on peut délirer solide. Et ça a des conséquences, même aux États-Unis, rappelez-vous, lorsque Bush a dit « teach the controversy » sur la question de la théorie de l'évolution. « Teach the controversy », c'était au fond utiliser politiquement les courants relativistes pour dire « mais il n'y a pas vraiment de vérité ». Vous dites que c'est Darwin. Non, non, il y a plusieurs théories en compétition et c'est bien qu'on enseigne les controverses. Les scientifiques disent « mais il n'y a pas de controverse sur la théorie de Darwin ». Le réchauffement climatique, on a dit « il y a une controverse ». Il y a des travaux de Naomi Oreskes qui ont montré que parmi les experts, il n'y a pas de controverse. Dans la société où chacun peut avoir son opinion sur la température, qui ne connaît rien à un modèle mathématique. Donc, les deux écueils, il faut les éviter. Il faut dire, oui, il y a controverse, mais attention, ce sont des controverses réglées dans le champ scientifique en disant, as-tu un théorème à me donner en mathématiques? Non. As-tu un appareil qui détecte la troisième décimale? Non. Donc, l'argumentation controversée, elle est contrainte par des appareils. L'exemple le plus simple, c'est Galilée. Quand Galilée utilise le télescope, il y a des gens qui disent « oui, mais c'est quoi cet appareil-là? C'est peut-être de la magie? » Parce qu'au fond, on ne connaît pas la théorie. La théorie du télescope, c'est Kepler, une année ou deux années après l'observation. Mais même les conservateurs aristotéliciens ont fini après 6 mois. Le père Clavius en premier, qui est le grand jésuite au Collegio Romano de Rome, il dit « oui, c'est bon ce qu'il a vu ». Donc, il y avait des contraintes. Il ne pouvait pas éternellement dire « non, 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 la Lune est une sphère de cristal ». C'est non crédible. Donc, il y a une accumulation irréversible de données qui fait que demain, on changera peut-être de théorie. On a changé entre Newton et Einstein, mais on n'a pas aboli Newton. On ne va pas sur la Lune avec Einstein, en gros. Hein? On peut même y aller avec Ptolémée sur la Lune. Il suffit de modéliser dans un algorithme ce qu'on veut en ajoutant des épicycles. Mais pour un algorithme qui a des épicycles, ce n'est pas grave. Parce que le but d'un algorithme, ce n'est pas d'avoir la vérité physique où on sait que la plus grande masse, c'est le Soleil. Donc, quand on explique ça, les gens disent « OK, il y a des controverses, mais c'est pas relatif à mon opinion, comme les premiers travaux de Latour l'ont longtemps laissé entendre. Bruno Latour a été pendant 25 ans le promoteur de relativisme un peu bizarre, mais lorsqu'il a vu les débats sur les réchauffements climatiques, à mon avis, il a reculé, puis maintenant, il vient nous dire, nous qu'on le dit depuis 30 ans contre lui, il vient maintenant nous rappeler à nous, les rationalistes constructivistes bachelardiens, que oui, finalement, la science, hein, c'est important. Alors qu'ils l'ont nié pendant 15-20 ans pour des raisons souvent de stratégie médiatique.
Alors, parlons des médias. On va en parler en deuxième partie avec Nicolas Martin, de cette situation peut-être nouvelle à certains égards dans laquelle nous nous trouvons et qui n'est peut-être pas si nouvelle que ça, qui a des racines un peu anciennes et qui ont à voir aussi avec une forme de défiance ou de contestation de l'autorité scientifique. On peut plus aujourd'hui, et ça pour le coup Latour l'a proclamé haut et fort, dire je suis savant, taper du poing sur la table et dire c'est comme ça. L'espace public ne fonctionne pas de la sorte, ce qui pose des problèmes relativement nouveaux aux autorités scientifiques, qu'il s'agisse de revues qui publient des articles selon un certain type de protocole, qu'il s'agisse des grandes institutions de recherche qui n'ont plus la facilité qu'elles avaient autrefois pour, en quelque sorte, inscrire la vérité scientifique dans l'espace public.
Oui, effectivement, il y a une transformation depuis essentiellement les années 80 dans ce que j'appelle un nouveau contrat social de la science. Le premier a été, au fond, implicite de 45 à 75, de dire, oui, la communauté scientifique, on l'appelait d'ailleurs la République des sciences, l'État leur donne de l'argent, ils nous ont fait des belles bombes atomiques, des radars, on leur fait confiance. On verra. Cette chose-là est terminée parce que maintenant, les gens peuvent aller sur Internet, dire à leur médecin, écoute, j'ai vu des choses sur ça, pourquoi tu me le suggères pas? Puis il y a eu d'ailleurs des investissements, par exemple, la méthode Zamboni, qui est un médecin spécialiste des varices, qui s'est dit, j'ai une théorie sur la sclérose en plaques. Tous les neurologues disaient, mais c'est absurde. Et non seulement c'est absurde, mais le traitement Zamboni est dangereux. Mais la pression sur YouTube, avec des gens qui disent, j'ai été guéri, a forcé plusieurs États à faire des tests d'une méthode que la communauté scientifique disait, mais ça sert à rien. C'est comme si demain, l'État nous oblige à remesurer le coefficient d'accélération à la surface de la Terre, qui est en gros, ici, 9,8 mètres par seconde carré. Ça sert à rien. Donc, le public, aujourd'hui, est plus structuré, plus intervenir beaucoup plus dans l'État. Par contre, l'affaire médiatique, les scientifiques, à mon avis, ont un mea culpa à faire aussi, parce qu'on est dans une économie de la promesse. Vous voyez à tous les gens à télé, oui, dans 10 ans, hein, ma molécule va guérir ci, va guérir là. Et après 10 ans, on dit, mais ça n'a pas marché. Non, c'est plus compliqué. On va attendre 15 ans. Prenez le cas de la fusion nucléaire. En 75, on disait, on a un réacteur de fusion en 90, les amis, c'est bouclé. Ça va nous permettre de se débarrasser de la fission qui est très polluante, etc. On est en 2015, on est en train de se construire Cadarache, et c'est pas certain que ça marche, parce que justement, c'est l'innovation. On sait pas si ça marche. On se voit en 2035, ça va fonctionner. C'est pas certain. Il faut donc dire, comme scientifique, écoutez, c'est expérimental, on le teste, on peut pas vous garantir, parce que si, comme je dis toujours, si on connaissait la réponse, ce ne serait pas de la recherche. Donc, en recherche, on essaie de trouver, on a des bonnes idées quand même, mais c'est pas sûr que ça va fonctionner. Donc, si les scientifiques cessent l'économie de la promesse, le déclin de la croyance, à force de crier au loup, les gens leur font moins confiance. Donc, il faut que les scientifiques acceptent de dire qu'il y a d'incertitude en science, alors qu'ils ont peur de le dire, parce que les gens veulent pas entendre de l'incertitude, ils veulent de la certitude. Moi, je dis non, il faut leur répondre par de l'incertitude et les éduquer de façon rationnelle.
Les médias, on en reparle dans la deuxième partie, les médias et la science, avec Nicolas Martin. C'est après avoir entendu un extrait, non pas d'un album, mais d'un 4 titres d'un groupe fort discret qui a disparu très longtemps, Mazistar, That Way Again.
Sylvain Bourmeau.
Histoire des sciences, c'est le titre du Que sais-je publié par le sociologue et historien Yves Gingras. On profite du passage à Paris d'Yves Gingras pour parler d'histoire des sciences, mais parler d'histoire des sciences dans un contexte particulier, me semble-t-il, et on parlait en relation avec les médias et avec Nicolas Martin. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Producteur à France Culture de la méthode scientifique, tous les jours à 16h sur notre chaîne, mais également producteur d'un podcast depuis quelques semaines, je crois qu'on en est au numéro 7.
Absolument.
Les idées claires, un podcast qui me semble apparaître dans ce contexte particulier de peut-être nécessaire reprise en main de la manière de parler de la méthode scientifique, des faits scientifiques, en acceptant des contraintes de format. Il y a les 128 pages de Que sais-je, mais il y a aussi, c'est inhabituel pour France Culture, les 3 minutes ou les 4 minutes de ce podcast, Nicolas Martin.
Le podcast audio fait une dizaine de minutes et on a une version vidéo qui est enregistrée distinctement. Ce n'est pas une adaptation de l'un et de l'autre. C'est deux médias, on prend la parole différemment. Du coup, un module vidéo qui fait effectivement 4 minutes. Et je trouve, en écoutant votre conversation tout à l'heure avec Yves Gingras, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que vous avez utilisé, Sylvain, l'expression « la vérité scientifique » et c'est exactement le nœud et le centre les problèmes. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui des sciences? Qu'est-ce que les citoyens attendent des sciences? Et on est dans une sorte d'injonction paradoxale qui, moi, me paraît intéressante à observer. Vous le disiez tout à l'heure, Yves Gingras, aujourd'hui, être capable de distinguer le savoir de la croyance. Or, aujourd'hui, il me semble que les citoyens attendent des sciences quelque chose qui est de l'ordre de la croyance, c'est-à-dire qu'on attend des sciences de délivrer une forme de vérité scientifique, et vous savez bien que la vérité scientifique, c'est un paradigme qui n'a pas de sens. Il n'y a pas deux vérités scientifiques, il y a des vérités scientifiques jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'elles soient réfutées. Donc on attend des sciences qu'elles nous disent la différence entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal, ce qui n'est pas évidemment à aucun moment le programme de quelque science que ce soit. Et d'autre part, on ne supporte pas son discours lorsqu'elle tente d'objectiver précisément une croyance. Vous parliez d'homéopathie tout à l'heure. Effectivement, il y a des études aujourd'hui totalement incontestables, vous parliez des CH, qui montrent que l'homéopathie n'a pas plus d'effet qu'un placebo. C'est démontré par suffisamment d'études.
C'est une vérité scientifique tant qu'elle n'est pas réfutée.
Voilà, mais en l'occurrence...
Ce sont des faits stables en tous les cas, c'est-à-dire que c'est ce que disait tout à l'heure Yves Gingras, on ne va pas à chaque fois se remettre à recalculer des choses, parce qu'on n'avancerait pas, on ne s'en sortirait pas.
Mais du coup, on critique les gens qui croient en l'homéopathie, critiquent la science, la volonté d'objectiver en tout cas l'innocuité, en tout cas l'absence totale de molécules actives dans un granule d'homéopathie, en disant, mais voilà, vous n'êtes pas capable de comprendre qu'il y a plus que cela dans l'homéopathie. C'est-à-dire que même si, de façon objective, il n'y a pas de produit actif, néanmoins, c'est autre chose, c'est une prise en charge, de même les médecines alternatives, de même l'acupuncture, de même les médecines chinoises, les médecines traditionnelles, etc. Donc, on rejette massivement une forme d'objectivation scientifique, tout en attendant par ailleurs que la science puisse, malgré tout, nous éclairer et nous permettre de distinguer le vrai du faux, le bien du mal.
Je précise juste, c'est un des sept premiers sujets que vous avez traités.
L'homéopathie est-il un placebo ?
Yves Gingras.
Oui, effectivement, c'est très intéressant parce que je pense qu'il faut introduire un élément ici qui est crucial, c'est celui des porte-paroles. Parce qu'au fond, que les gens, je prends l'exemple souvent de l'astrologie, bon, que votre père dise, je regarde mon horoscope le matin, on s'en fout, ça n'a pas de conséquence. Mais dans le cas de l'homéopathie, ces gens-là qui vont dans leur naïveté croissée, disent, oui, mais il y a quand même l'association des homéopathes, et si vous faites une critique, moi j'ai fait une critique il y a plusieurs années à la radio, et bien sûr, il y a eu une plainte à la radio. Bon, la plainte a été mise de côté. Okay. Mais les porte-paroles vont dire non, 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 et ils vont justement utiliser un certain discours sur le relativisme pour dire non, non, il y a d'autres univers, ou on comprend pas encore pourquoi. On dit non, c'est l'équivalent du placebo, on comprend pourquoi. On a fait les tests en double aveugle et c'est du placebo. Mais comme il y a des porte-paroles puissants, il y a des intérêts puissants, ils font tout ce qu'ils peuvent pour faire ça. Donc ce fait-là que soit organisé, on a des organisations d'homéopathes, c'est une profession, entre guillemets, qui a pignon sur rue et qui peut intervenir. Et c'est elle qui vient de dire, c'est un peu qui dit vrai. Hein? Vous avez un sarrau blanc, il y a un sarrau blanc, le citoyen lambda dit, mais pourquoi je croirais lui au lieu de lui? C'est là que c'est le vrai problème. Et le rôle de l'État français, qui est assez particulier, hein, c'est, je pense, un des rares pays au monde où la sécurité rembourse un médicament qui est inefficace. Donc, les gens vont se dire, écoutez, si c'était pas efficace, l'État le rembourserait pas. Donc, paradoxalement, elle
encourage... Là, ça devient une question politique sur l'usage totalement des fonds publics. Mais Nicolas Martin, ça pose la question, quand on est journaliste scientifique, de la manière dont on peut et dont on doit se faire l'écho des controverses scientifiques. Il me semble qu'il y a parfois une contradiction entre le mode de connaissance scientifique et le mode de connaissance journalistique. Le mode de connaissance journalistique va procéder en fabriquant ce qu'il appelle de l'objectivité, en mettant quelqu'un qui est pour face à quelqu'un qui est contre. Et alors, si on reprend l'exemple du réchauffement climatique que prenait Yves Gingras tout à l'heure, alors même qu'il y a un consensus chez les spécialistes sur la question, le journaliste va se sentir obligé d'aller chercher quelqu'un qui sera dans la position opposée pour donner le sentiment de produire de l'objectivité, entre guillemets, quitte à aller chercher quelqu'un qui n'est pas un spécialiste. Ce sont des choses qu'on a vues en permanence sur cette question.
Sur le réchauffement climatique, c'est aussi vrai pour la vaccination, c'est-à-dire que c'est effectivement, on arrive à un moment donné. Alors, par ailleurs, on ne crée pas ce type de débat dans la méthode scientifique parce que on estime que on peut amener à vulgariser, c'est-à-dire éclairer. Par exemple, c'est des sujets compliqués hein, à traiter. Par exemple, je préfère prendre la vaccination parce que la vaccination, c'est plus sournois en fait. Il y a de facto des effets que l'on peut attester, des effets secondaires qui sont quantifiés hein, par un certain nombre d'études de certains types d'adjuvants sur des gens qui ont des réactions. Bref, tout ça, il y a des études, il y a une littérature scientifique à ce propos-là. Le problème, c'est qu'il est incontestable que la vaccination est une grande avancée de la médecine moderne et a permis d'éviter des millions, peut-être même, j'exagère peut-être, mais des milliards de morts sur cette planète. Néanmoins, il y a effectivement, on voit un problème de défiance qui a été très largement amplifié par le discours médiatique, parce qu'on a ressorti ce sondage en disant 41% des Français se méfient des vaccins, ça n'est pas ce que dit le sondage. Mmh. Le sondage dit autre chose, dit que 41% des Français estiment qu'il peut y avoir un risque lié à la vaccination faible, ouais. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc, il y a d'un seul coup un déséquilibre complet d'un fait scientifique qui, là, pour le coup, est avéré par la plus grande étude épidémiologique du monde, c'est-à-dire la planète entière. Et on se sent obligé d'incarner ce débat en disant, il faut dire est-ce qu'on est pour ou contre, et donc une espèce de réduction ascientifique d'un débat qui, en fait, n'est pas lui-même un débat scientifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Gingras, mais...
Oui, effectivement, ça m'amène à une critique qui est toujours malvenue, mais c'est de dire qu'une partie du problème, c'est un peu carré, mais comme le temps est limité, je vais être carré, c'est de dire qu'au fond, souvent, les journalistes, je ne parle pas de journalistes scientifiques, les journalistes ont une totale ignorance de science. Parce que, par exemple, dans des sondages, c'est arrivé chez nous aussi, comme vous venez de le dire, vous lisez la question et vous regardez la formulation de la question, vous voyez très bien que ce qu'il a mis comme titre, ce n'est pas ça du tout. J'ai un exemple chez nous où il y avait un sondage où les répondants disaient X et j'avais gagé avec ma compagne qu'à l'atelier, ils vont traduire en disant la population. C'est une enquête sur les étudiants. Donc, X % des étudiants font X, alors que le sondage étant biaisé pour diverses raisons qui nous donnaient de l'information... Dans le rapport, ça a toujours écrit X des répondants. Parce que les répondants n'étant pas une population structurée, aléatoire de la population, on ne pouvait pas faire une inférence des répondants à la population. Mais déjà, c'est technique. Mais là, il faut dire aux journalistes, c'est un peu, là, il ne faut pas que tu remplaces le mot répondant par le mot population. Parce que ça a fait un... Tout le monde dit, ah oui, il y a X % des étudiants et des étudiantes qui pensent X. J'ai dit, pas du tout.
Et ça m'amène à un autre exemple que je trouve intéressant sur le rôle que doit avoir l'information scientifique à permettre, malgré tout, de comprendre un problème dans l'ensemble de ses composantes scientifiques stricto sensu et donc de faire fi d'une forme de pression de l'opinion publique qui biaise complètement l'approche que l'on peut avoir d'un problème. Le glyphosate. C'est un sujet extrêmement intéressant. Le glyphosate, il y a une littérature scientifique abondante dont toutes les études, sauf une, concluent à la non-nocivité pour l'homme aux doses auxquelles il est utilisé, enfin aux doses, même pour les agriculteurs hein, qui l'utilisent, il n'y a pas de lien de cancérogénicité ou de génotoxicité. C'est établi par un certain nombre d'études. Ça ne veut pas dire que le glyphosate est bon pour la nature, ça n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire que le glyphosate n'est pas dangereux, ça n'est pas le cas. Le glyphosate est une molécule dangereuse comme d'autres pesticides, mais... La réalité, c'est que tout sauf une étude du cirque qui, par ailleurs, classe le jambon comme hautement cancérigène, le glyphosate est classé comme probablement cancérigène, c'est-à-dire le groupe 2A. Il faut pouvoir dire cela. Or, il faut pouvoir prendre le temps de l'expliquer, il faut pouvoir le temps de le déconstruire. Or, le journalisme généraliste, l'information générale, a rarement le temps d'avoir accès à ce niveau de connaissances scientifiques qui, pourtant, est quand même hautement éclairante en dehors des partis pris et de l'opinion publique sur des problématiques qui sont des problématiques de santé publique, donc que tous les citoyens devraient avoir accès.
Alors, ce que vous dites est évidemment très juste concernant les sciences dites dures ou les sciences de la vie. On vient de prendre différents exemples qui ont trait à la médecine ou à la biologie. Mais c'est aussi vrai s'agissant des sciences sociales et des sciences humaines. Et ça pose encore plus de problèmes parce que là, pour le coup, la frontière entre journalistes spécialisés et journalistes généralistes est beaucoup plus poreuse. À propos de l'école, tout le monde pense être un expert parce que tout le monde est allé à l'école. Donc tout le monde a un avis sur l'école. Nicolas Martin, vous avez pris des sujets qui relèvent des sciences sociales. Récemment, un sujet sur l'immigration, par exemple, histoire de, dans les idées claires, rappeler un certain nombre de faits démographiques de base pour qu'on ne puisse pas raconter n'importe quoi sur l'immigration.
C'est tout de suite ce qui devient plus complexe lorsqu'on se saisit de ces sujets-là. On est en train de préparer un autre sujet qui serait une réponse donc à cette idée reçue qui est de dire, qui a été récemment repopulacée par le président de la République en disant les aides sociales coûtent trop cher à l'État français. Aujourd'hui, il y a une littérature scientifique qui peut examiner ces questions-là. Sur l'immigration, il y a une littérature scientifique abondante. Le problème, c'est que ces littératures scientifiques, comme on est dans des registres qui relèvent plus de la politique, donnent lieu à plus d'interprétations. C'est-à-dire que ce sont des réalités qui sont plus complexes à objectiver d'un point de vue scientifique. Et d'ailleurs, sur les idées claires que nous avons faites sur l'immigration, on a été repris immédiatement dans une tribune par une autre démographe qui fait une lecture strictement inverse et qui fait une lecture qui est idéologique, qui est reconnue comme idéologique et qui accuse notre intervenant François Héran, qui est professeur au Collège de France par ailleurs, donc qui est d'une certaine manière légitimé par les institutions, de faire lui-même une lecture idéologique. Donc on sort parce que on arrive effectivement de facto à quelque chose de beaucoup plus politisé et duquel il est beaucoup plus compliqué de sortir une forme de réalité objectivée par une approche scientifique.
Oui, c'est un problème. Effectivement, dans le livre que j'ai édité il y a quelques années, qui s'appelle « Controverses, accords et désaccords en sciences humaines », je distinguais ce que j'appelle au fond les objets chauds, les objets froids. Dans les controverses scientifiques, on dit « oui, l'âge de l'univers, bon, on comprend que chicane ». Or, les objets chauds sont presque, sauf pour l'évolution qui est un peu chaud pour des questions religieuses, en sciences humaines et sociales, c'est pas qu'il y a moins de scientificité. Moi, je fais des enquêtes, on a des sondages, c'est avec des tests statistiques, des régressions, c'est parfaitement clair. Mais comme c'est des objets chauds, et comme vous avez dit, oui, mais moi aussi, je suis à l'école, voyons donc si il y a X, Y, Z. Non, mais les données montrent le contraire. Donc, l'interprétation idéologique d'un même fait, surtout que les gens doivent comprendre que, en sciences humaines et sociales, les faits ne peuvent pas dicter la politique. Par exemple, si on dit il y a très peu d'immigrants comparés à X, tu peux dire oui, il y en a très peu, mais on a droit, nous, X, à tort ou à raison, mais c'est politique. On dit on n'en veut pas plus. Oui, mais la moyenne, c'est 20%. Oui, mais so what? Donc, il faut dire oui, il y a les faits, parce qu'il y a tout un courant qui se développe qui s'appelle les politiques fondées sur les données probantes, le fameux evidence-based policy, où au fond, il y a un danger dans ça, parce que ça donne l'idée que les politiques sont inférées directement à des données, ce qui est une totale absurdité en sciences humaines et sociales. C'est comme les réacteurs nucléaires. Tu peux dire, c'est pas dangereux, mais nous, au Québec, on a de l'eau à quantité, donc pourquoi on ferait des réacteurs nucléaires? C'est pas parce qu'ils sont sécuritaires qu'on va en construire. Donc, la politique est pas déductible de la science. Et en sciences sociales et humaines, ça double le problème de chacun qui se croit expert de la société parce qu'il est lui-même un citoyen. Ce qui rend la difficulté des sciences sociales d'être considérées comme scientifiques, mais elle est cumulative. Les sciences sociales, elle est même prédictive dans un grand nombre de domaines. Sur le plan démographique, c'est le cas le plus grand. On sait que plus l'éducation augmente, le nombre d'enfants moyens diminue. C'est le cas actuellement encore aussi dans les pays arabes. C'est des lois assez universelles. Mais les gens veulent pas s'y fier. Ils pensent que tout le monde aura 12 enfants parce qu'ils sont religieux, etc. C'est tout démontré, ça, comme étant faux.
La question s'est posée pour vous de savoir si vous incluiez ces sciences humaines et sociales dans le périmètre des idées claires.
Ça a été un choix immédiat. C'est-à-dire que la volonté des idées claires, c'est de se saisir de tous les régimes de distorsion de l'information, quels qu'ils soient, autant sur ce qu'on appelle aujourd'hui des fake news et fausses informations, mais aussi sur des idées reçues. Vraiment, l'idée, c'est de dire aujourd'hui, on ne se sert pas de la science, précisément pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, pour dire voilà ce qui est vrai ou voilà ce qui est faux, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a une littérature scientifique, il y a des scientifiques qui peuvent venir en rendre compte et qui peuvent montrer et apporter des réponses dans une forme de réimplémenter, même dans un format très court, une forme de complexité, de recomprendre ces questions-là en disant, ça n'est pas aussi simple que ça. Quand on dit aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui, on mange quand même beaucoup moins bien qu'hier. Hier, on mangeait les tomates du potager. C'est pas si simple que ça. Aujourd'hui, on mange peut-être un peu mieux, mais bref, voilà, réimplémenter grâce à la science de la complexité dans la manière d'aborder ces questions sur lesquelles on passe un peu trop vite, souvent par paresse intellectuelle, par conformisme, par idéologie, etc.
Merci Nicolas Martin. Les idées claires, c'est donc podcast, audio, une dizaine de minutes, vidéo. On trouve tout ça évidemment sur le site de France Culture. Merci Yves Gingras. Je rappelle que vous avez publié il y a quelques mois Histoire des sciences dans la collection Que sais-je des puffs. Et puis vous le citiez, ce livre que vous avez dirigé, Controverses au pluriel, accords et désaccords en sciences humaines et sociales. On trouvera les références bibliographiques sur la page de La Suite dans les idées, une page où vous pouvez réécouter l'émission et vous pouvez bien entendu vous abonner également au podcast. C'était La Suite dans les idées, Sylvain Bourmeau attaché de production, Catherine Donnet à la technique, Philippe Mercher à la réalisation, Anne-Laure Chanel. C'est Christine Bernard que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture pour le premier volet cette semaine d'une histoire particulière.